Père Jacques Sedeau, bonjour.
Bonjour. Donc, nous allons continuer ce que nous avions fait il y a un mois sur les bases philosophiques de la bioéthique. Alors, l'autre fois, on avait vu dans un grand panorama toutes les contributions que les différentes traditions philosophiques ont apportées à la bioéthique actuelle. Nous avions commencé d'abord par la base, c'est-à-dire ce qu'on appelle la morale naturelle. Morale naturelle que chaque être humain trouve en lui-même et grâce à sa raison et qui lui permet de chercher le bien et le mal et de distinguer un certain nombre de biens fondamentaux qui sont tout à fait à rechercher. Le bien de la vie, le bien de la société, le bien de l'amitié, le bien de la beauté, il y en a 10. Et nous avons vu que cette morale naturelle a été un peu rejetée à partir de la Renaissance et de la Réforme au bénéfice de nouvelles philosophies qui sélectionnaient un aspect particulier. La plus ancienne, bien sûr, c'était la morale du bien-être, des bonheurs, c'était la morale antique. Et dans cette morale, on soulignait tout ce qui pouvait contribuer au bonheur humain, mais on avait vu que c'était limité. À partir de la Renaissance, s'est développée la morale libérale, centrée sur la notion de liberté. Donc ce qui était très important, c'était d'être libre et d'agir librement. Et nous avons vu aussi les limites de cette tendance. Encore plus importante est arrivée à partir du XVIIIe siècle la morale utilitariste, dans laquelle on a éliminé toute préoccupation métaphysique, toute préoccupation d'un dieu ou autre, pour ne conserver que le plus grand bien pour le plus grand nombre. Et cette morale utilitariste, qui avait été fondée par Jeremy Bentham, suivie par Mill, aujourd'hui elle est très présente dans la médecine actuelle, où ce qui importe, c'est d'être efficace. Et en particulier, on a des personnes comme Savulescu qui vont justifier beaucoup de choses. Justifier l'avortement, justifier l'euthanasie, justifier l'élimination des personnes âgées au nom de ce principe d'utilité. Et enfin, la dernière, c'était la perspective sociale ou évolutionniste dans laquelle on dit, au fond, il faut être en accord avec son temps. Vous nous parlez de morale chrétienne ou de morale naturelle, mais tout ça s'est révolu et il faut suivre sa société. Donc on va toujours courir derrière tous les développements qui se font. Et on va courir, par exemple, au droit de choisir son sexe, aux joies de se faire stériliser, au droit d'avoir de multiples partenaires, etc. etc. Alors ces principes, donc, ont une grosse influence actuelle, dans la bioéthique actuelle, ce qui fait que souvent, on est appelé à parler de bioéthique au pluriel. Il y aura une bioéthique de type libéral, centrée sur la liberté, une bioéthique de type utilitariste, centrée sur l'utile et les personnes plus utiles à la société. Alors, face un peu à cette anarchie philosophique et culturelle, que peut-on dire ? Il faut revenir aux sources. Et la source en médecine, c'est la médecine hippocratique. Et nous avons vu que cette médecine hippocratique, elle a été redéveloppée à l'époque moderne, durant la Seconde Guerre mondiale, sous sa forme de personnaliste, d'une attitude centrée sur la valeur de la personne humaine. Revoyons d'abord l'origine, l'éthique hippocratique. C'est le fondement de la médecine. Et en fait, jusqu'aux années 70, la réflexion éthique dans le domaine médical était ce qu'on appelait la morale médicale ou éthique médicale, dans laquelle les médecins se réunissaient à partir des principes de base hippocratiques pour décider quoi faire devant tel ou tel cas. Et cette éthique tirait son origine des enseignements d'Hippocrate, qui était un médecin grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui avait constitué une école avec un fameux serment, le serment d'Hippocrate, et toutes sortes de documents, le corpus hippocratique, un certain nombre de dictons, il y en avait 406, qui guidaient le médecin à partir de l'expérience clinique. le serment d'Hippocrate est resté jusqu'à présent comme la base de toute éthique médicale, bien que beaucoup voudraient s'en débarrasser. Le code d'éthique lui-même interdit un certain nombre de choses. Interdit l'avortement, interdit d'administrer des poisons, interdit de pratiquer l'euthanasie, interdit d'avoir des relations sexuelles avec les patients, interdit de divulguer à l'extérieur des détails sur la vie privée des patients. Et ce code d'éthique a été aussi la base de la médecine traditionnelle jusqu'à peu de temps. Il introduisait la plupart des principes éthiques tels qu'ils sont énoncés dans la bioéthique. Obligation du bienfait, de la bienfaisance, non-malfaisance, ne pas nuire, le secret médical, la confidentialité. Et il comportait aussi toutes les interdictions éthiques prescrites et contre lesquelles on se rebelle aujourd'hui. Interdiction de l'avortement, interdiction de l'euthanasie, interdiction des relations sexuelles avec les patients, et Hippocrate exhortait le médecin à vivre une vie pure, selon l'esprit grec, c'est-à-dire une vie selon l'éthique des vertus dans laquelle on cherche à être le meilleur dans sa spécialité. C'est une doctrine d'excellence. Le médecin doit être excellent au service du malade. Cet enseignement d'Hippocrate était certainement très remarquable. D'abord, Hippocrate était un homme très concret qui cherchait toujours des causes naturelles aux maladies sans tout de suite aller recourir à des démons ou à des esprits mauvais. Il insistait sur trouver des causes naturelles à chaque pathologie. Et deuxièmement, pour Hippocrate, la médecine s'inscrivait dans un triangle avec, d'un côté, et au sommet, la nature qui conditionne, et dans la nature, on a les propres principes de la guérison du patient. De ce principe de la nature à laquelle il faut toujours revenir, venait d'un côté le malade, le patient, qui était le centre de la relation médicale. Et puis, de l'autre côté, la maladie, justement, sur laquelle le médecin devait agir en cherchant dans la nature tout ce qui lui permettrait de guérir la maladie. Donc le médecin, dans cette perspective, son principe, il était avant tout concerné par le malade, et ce malade particulier qui était venu le voir et lui faisait confiance. Et on voyait que les principes de préoccupation pour le malade du côté du médecin et de confiance dans le médecin du côté du malade étaient très importants. Hippocrate insistait beaucoup sur l'examen du malade et le fait qu'il fallait examiner avec patience le malade pour chercher, à partir de sa propre expérience, les signes qui permettaient de faire un diagnostic et un pronostic exact. Pour Hippocrate, la thérapeutique, la meilleure, n'était pas forcément la plus compliquée, mais c'était celle qui ne contrariait pas la nature. Et Hippocrate recommandait aux médecins la sagesse, la réserve, la modestie, la décence, la générosité, la franchise avec le malade et la consultation avec les autres médecins. De ce corps éthique Hippocrate, on a sorti trois grands principes qui restent absolument présents aujourd'hui. Celui du secret professionnel. Le médecin n'a pas à raconter ce qu'il a appris sur le malade à l'extérieur. Le principe de l'égalité des soins pour tous, que la personne soit riche ou pauvre, on fera payer davantage le riche que le pauvre. Et le souci de ne pas nuire avant d'établir un traitement, voir si ce traitement ne va pas entraîner plus de problèmes que de gains. Et de ce principe hippocratique sortait l'image du médecin vertueux, tel qu'il devait être, qui cultivait le souci pour le bon et le juste, qui était courtois, tempérant, juste, et où la vertu centrale de la médecine était la phronésis, le jugement pratique, que le médecin acquérait tout au long de sa vie et par lequel il pouvait distinguer l'action droite et bonne qui devait être faite sur ce médecin au moment présent. Alors, cette tradition hippocratique est celle sur laquelle la médecine a vécu jusqu'à aujourd'hui. La philosophie stoïcienne, disons romaine, a apporté à l'enseignement d'Hippocrate les notions de devoir et la notion de compassion vis-à-vis du malade. Donc, au fond, rentrer dans le problème du malade, se le figurer et du coup vivre avec son malade. Le christianisme n'a pas eu à ajouter tellement à ce corps hippocratique. Mais le christianisme a apporté la parole du Christ qui enjoignait aux fidèles de visiter le malade. J'étais malade et vous m'avez visité. Et de voir dans le malade le Christ lui-même. C'est ainsi que la figure du Christ médecin, celui qui soignait, celui qui curait, celui qui traitait les malades, parfois même qui les ressuscitait, s'est associé à cette idée que de voir dans le malade le Christ lui-même et de le servir. Ce qui fait que durant le Moyen-Âge, les idéaux d'Hippocrate sont restés très vivants et ils ont formé la base de l'éthique médicale chrétienne. Et au fond, les écrivains chrétiens, théologiens comme saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, les écrivains juifs comme Moses Maïmonides au XIIe siècle, considéraient la pratique de la médecine comme l'idéal le plus élevé. Le but de la médecine était de servir le malade pour servir Dieu. Et le médecin était en principe un religieux, un homme qui avait dédié sa vie entière au service du malade et du Seigneur. Alors, les choses se sont un petit peu structurées avec le développement des premières universités médicale avec Salerne en 750, Bologne en 1123, Oxford en 1167, Paris en 1215. Et lorsque la profession médicale s'est organisée en corporation. Et à partir de là, au fond, la profession médicale et la pratique médicale n'a plus changé. Au XVIIIe siècle, se sont développés des codes d'éthique médicale, où le médecin était décrit comme un gentleman, quelqu'un qui était équilibré, enjoué, qui redonnait le moral, qui était responsable pour ses patients, qui était humain et qui savait être ferme quand il le fallait vis-à-vis du patient, mais qui savait être aussi indulgent vis-à-vis des plus faibles, et qui respectait le secret médical, qui n'allait pas raconter au dehors ce qu'il avait appris dans la maison, dans le secret de la maison. Le médecin redevait respecter le secret médical et être courtois vis-à-vis des autres médecins. Et tout cela a formé le principe de l'éthique médicale qui a été incarné aux États-Unis dans un code, le Principles of Medical Ethics. Alors bien sûr, la pensée chrétienne n'a pas du tout été étrangère au développement de cette éthique médicale. Elle a eu une très grosse influence. Une pensée qui était centrée sur le service du malade, la compassion vis-à-vis du malade, cette relation particulière de confiance et d'aide qui se tisse entre le médecin et le patient. C'était au fond le modèle du médecin de famille. Celui qui allait se réveiller dans la nuit pour aller voir un enfant qui avait la rougeole. Et le pape Pie XII a eu un rôle très important dans le développement de cette éthique médicale. Il était très préoccupé par les questions médicales. Il a fait beaucoup d'interventions dans des congrès médicaux, à la radiographie, et il a donné un élan extraordinaire à l'éthique médicale, à l'éthique des infirmières d'inspiration chrétienne. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les progrès en médecine et en technique s'étaient développés très rapidement. Et au fond, l'éthique hippocratique n'avait pas changé, c'était la même. Et on a commencé à la considérer comme trop paternaliste, comme ne faisant pas assez de place à la décision du patient, au jugement du patient. Et on a été chercher autre chose. Le résultat, c'est que eh bien, la médecine est devenue de plus en plus technique, mais la relation entre le médecin et le patient s'est détériorée. Et on est rentré de plus en plus dans le patient anonyme, qui était une maladie plus qu'une personne. Aujourd'hui, il faut bien se rappeler que la médecine est de tradition hippocratique et qu'elle reste hippocratique, elle doit rester hippocratique dans ses grands principes. C'est-à-dire qu'en médecine, le patient est un être humain que l'on doit reconnaître en tant que tel et pas comme un numéro, qui a eu une dignité d'être moral, d'esprit incarné. Et qu'au premier plan de la préoccupation de la médecine, ça ne doit pas être la technique, mais ça doit être le rapport humain entre le médecin et le malade. Alors, s'est développé, durant la Seconde Guerre mondiale, un mouvement de pensée qui, au fond, a repris, au niveau général, un peu ses intuitions de la médecine hippocratique, et c'est ce qu'on appelle le modèle personnaliste, que je vais essayer maintenant d'expliquer dans le temps qui me reste. Le personnalisme, c'est une philosophie qui a été créée par Emmanuel Mounier durant la Seconde Guerre mondiale, en France divisée, avec des échanges entre zones libres et zones occupées, etc. Et dans ce contexte très difficile, Emmanuel Mounier, face au nazisme et au communisme, a dit qu'il y avait une autre solution. Une autre solution entre le capitaliste libéral, pour qui seul l'argent compte, entre le communisme qui abolit toute individualité, et donc l'anarchisme qui élimine toute règle, il y avait une voie à chercher, et dans lequel il fallait retrouver la valeur de la personne. Et le principe moral fondamental de cette nouvelle tendance, diffusée par Emmanuel Mounier et ceux qui l'ont suivi, c'était « une action est bonne dans la mesure où elle respecte la personne humaine et contribue à son épanouissement. Dans le cas contraire, si elle va contre la personne humaine, contre sa dignité, elle est mauvaise. » Alors bien sûr, il faut définir d'abord ce qu'est une personne. Le mot vient du mot latin « persona », qui lui-même traduisait un mot grec « prosopon » et qui signifiait au départ le masque de théâtre. Les acteurs dans le théâtre antique portaient un masque sur le visage qui indiquait leur rôle. Et de ce mot de masque, eh bien, le mot « personne » est venu à désigner le rôle de l'acteur, puis au fond, le rôle de la personne dans sa vie. La personne, c'est l'être humain en acte, dans ce qu'il fait, et où, justement, il montre comment est son cœur, où il montre ses vertus, sa sensibilité. En même temps, le mot personne signifie être humain en relation avec les autres. L'être humain n'est pas isolé. Il est dans une société. Et c'est dans la société qu'il devient vraiment humain. Alors le sens que l'on pourrait donner les dictionnaires est le suivant. Est personne, un être individuel, en tant qu'il possède les caractères qui lui permettent de participer à la société individuelle et morale des esprits. Conscience de soi, raison, capacité de distinguer le vrai du faux, capacité de distinguer le bien du mal, et capacité de se déterminer pour des motifs dont il puisse justifier la valeur devant d'autres êtres raisonnables. Donc on a vu que cette définition de personne insiste sur cette capacité de juger, de se déterminer pour un bien. Alors le mot de personne, en fait, est très profond, il est très complexe. On peut dire que l'homme est personne d'abord parce que en lui, la vie devient capable de réflexion sur elle-même, d'autodétermination. L'être humain est quelqu'un qui est capable de réfléchir, de revoir sa vie et de changer aussi son mode de vie. Il est d'autre part l'unique être vivant qui a la capacité d'accueillir et de découvrir le sens des choses. Dans la Bible, Dieu confie à l'homme le soin de donner leur nom à toutes les espèces vivantes, à tous les animaux. Deuxième point, la distance ontologique dans le plan de l'être et axiologique dans le sens des valeurs qui distingue la personne humaine de l'animal et sans comparaison entre la distance qui sépare la plante, par exemple, du reptile. Il y a un abîme entre l'être humain et l'animal. Et cela va justement un petit peu contre la tendance actuelle, ce qu'on appelle l'antispécisme, dans lequel on voudrait rabaisser l'être humain au rang de l'animal. Non, l'être humain est nettement supérieur. En chaque homme, en chaque personne humaine, le monde entier se trouve récapitulé. Nous sommes capables de penser le monde, l'univers, la société. Et la société elle-même doit avoir pour référence ultime non pas l'abolition de la propriété, non pas de gagner plus d'argent, non pas de faire une sorte de justice, mais la personne humaine. La personne doit être la fin et la source pour la société. Et une personne de 95 ans aura autant de valeur qu'une personne de 30 ans qui fait des affaires. Et ça, c'est très important. Nous ne mettons aucune différence entre les personnes humaines, quel que soit leur âge, leur capacité et leur état psychologique. Troisième point, la personne est une unité d'existence. Elle est un corps spiritualisé, un esprit incarné, comme le disait Jean-Paul II dans sa lettre aux familles. Et le personnalisme fixe à la morale, comme objet à la morale, la réalisation de cette globalité de l'homme comme corps incarné ou comme pensée dans un corps spiritualisé. Donc, la grande question en bioéthique devrait être, devant une certaine conduite que j'envisage, est-ce que cette conduite va contribuer à humaniser la personne? Et alors, cette vision personnaliste a différentes conséquences. D'abord, la valeur du corps. Le corps est partie coessentielle du sujet, de la personne. Il n'est pas quelque chose à côté. Comme aujourd'hui, il y a une certaine tendance. On joue avec son corps, on le considère comme un instrument dont je tire du plaisir. Non. La personne dans le corps et avec le corps reçoit ce qu'elle est, son individualité, sa différenciation. C'est le corps qui permet à la personne de dire « je, moi » et de se référer à l'histoire. Et la personne, au travers du corps, se révèle, se manifeste, se communique avec ses semblables. Le corps donne à la personne ses limites. La douleur physique, la souffrance, la mort. Et le corps, comme disait, qu'est-ce que le Dieu a au fond gagné en devenant incarné en Jésus-Christ? Il a gagné ce sens des limites. Et l'homme, selon ce que disait par exemple Heidegger, il est un être destiné à souffrir et à naître pour la mort. Et ces limites soulignent justement cette caractère particulier de l'être humain, conditionné par son corps et en même temps transcendant. Par le corps, l'esprit s'incarne et rentre dans l'histoire. C'est quand je reçois mon corps, au moment zéro de mon existence, que je deviens moi, avec un nom, et que je rentre dans la société, dans l'histoire. Dans le corps, la personne œuvre au travers d'un instrument, toujours en action, le corps. Et le corps est le premier instrument qu'a l'homme. C'est l'ouïe, la vue sont amplifiées par la technologie, mais elles sont la base de tout. Alors, cette notion du corps est très importante, en particulier par exemple dans l'éducation sexuelle ou sanitaire. Chacun de nous a du corps des autres le concept qui s'est lui-même formé à partir de son propre corps. Et si cette personne est un jouisseur qui considère le corps simplement comme un outil, eh bien, il considérera que les autres ont la même perspective. S'il a banalisé son corps, il banalisera le corps des autres. Ce qui explique beaucoup de problèmes actuels dans la sexualité. Par contre, si l'homme croit, c'est l'avant d'humanité, il promet aussi le corps en lui. Et il donne au corps sa dignité d'être humain. Il en découle que la vie est le bien fondamental. La vie physique, elle n'est pas toute la personne, mais elle est ce qui est fondamental, le bien fondamental. Si nous n'avons pas la vie, les autres biens ne pourront pas être à voir. Et donc, sur le plan moral et éthique, au sommet, on doit placer le bien intangible, transcendant de la vie. Et c'est à partir de ce choix pour la vie que doivent se faire les choix du malade, du patient et les choix du médecin. Le médecin ne doit pas manipuler la vie. Il n'est pas là pour supprimer une vie humaine. Il est d'abord là pour la respecter. Ni la société, ni une loi, ni même des comités éthiques ne peuvent dépasser cette responsabilité pour la vie. Aucune loi ne peut obliger un médecin à aller contre la vie humaine. Alors, le droit à la vie physique est prioritaire même sur la liberté. La liberté est là pour d'abord prendre en charge de façon responsable la vie du patient, la vie d'autrui. Et donc, c'est la valeur de la vie qui donnera sa limite objective à la liberté du patient, à la liberté du médecin. Je ne peux pas décider moi-même de ma mort. Le médecin ne doit pas être là pour aider à la mort du patient. Dernier principe, le principe de la totalité, c'est-à-dire que j'ai le droit, pour sauver la vie d'un sujet, de porter atteinte à son intégralité corporelle. Et c'est le principe de la chirurgie. Le chirurgien a le droit et même le devoir d'enlever un organe malade pour sauver la vie du patient. Par contre, je ne peux pas intervenir sur le corps d'une personne simplement pour un bien partiel qui ne concerne pas la totalité de la personne. Je ne peux intervenir que pour le bénéfice du tout. Et c'est pourquoi je ne pourrais pas détruire une partie du corps simplement pour un bien partiel. Je ne pourrais pas changer le sexe physique d'une personne pour guérir une maladie de l'esprit, une transsexualité. Je ne peux pas stériliser une personne pour la soulager psychiquement. J'aurais apporté alors atteinte à la corps dans sa totalité. Dernier principe. Socialité, subsidiarité. La personne vit dans une société et la personne doit offrir à la société sa propre contribution de service. C'est une chose très importante aujourd'hui. Pour de multiples raisons, dans notre société libérale fondée sur l'argent et le moi, l'individualité, on a oublié cette notion du bien commun. Nous ne vivons bien comme personne que si nous collaborons au bien commun de la société. Et quand on discute par exemple sur la question des vaccins, c'est très important de revenir à ce principe. Le citoyen doit considérer sa propre vie et celle d'autrui comme un bien social. la société aide le citoyen à bien vivre et le citoyen doit donner sa contribution à la société. À la socialité doit s'ajouter la subsidiarité. Nous devons porter plus d'aide à celui qui a plus faible, à celui qui a le moins de ressources. Et en même temps, nous devons reconnaître la valeur de l'initiative de celui qui est capable de se débrouiller lui-même. Cela implique que la communauté doit aider davantage là où la nécessité est la plus urgente. Aider davantage celui qui est le plus malade, celui qui est le plus vulnérable, celui qui est le plus âgé. Les traitements doivent être à la charge de la communauté quand le malade ne peut plus les assumer lui-même, quand la famille elle-même ne peut plus assumer la charge du malade. C'est la société qui doit venir en commun. J'étais malade, vous m'avez visité. Et il faut reconnaître leur valeur, tous les groupes, associations, institutions, souvent à caractère religieux, qui œuvrent pour le bien des plus vulnérables, pour le bien des plus malades. Et ce principe de la subsidiarité a une valeur particulière face à la tentation toujours présente dans notre société libérale centrée sur l'argent, d'investir les aides et les dépenses là où on espère en retirer quelque chose. Et donc dans la perspective de notre société, on aidera davantage la personne de 30 ans qui a un rôle social, qui est président directeur général d'une société, et on traitera moins bien la personne de 93 ans. Eh bien non. Le principe, le personnalisme s'oppose à cette discrimination. Les ressources doivent être appliquées là où il y en a davantage besoin. Et l'on ne doit pas avoir cette triste discrimination qui s'opère souvent aujourd'hui entre les personnes utiles à la société, bien en bonne santé, et les personnes bon, âgées et qui n'ont plus de services à rendre. En conclusion, l'objectif du personnalisme en bioéthique est de revendiquer la valeur intrinsèque de l'être humain face à l'instrumentalisme utilitaire, face à l'utilitarisme. Et morale naturelle et personnalisme ensemble offrent la base philosophique, anthropologique la plus large, la plus complète. Il s'agit de redonner à la médecine son visage humain au service du patient et donc au service du bien universel. Je vous remercie.
Père Jacques Ciodot, alors je suis peut-être un petit peu hors sujet, je vais quand même poser la question. Vous avez parlé de l'intégrité corporelle du patient qui peut être atteinte pour son bien, pour le sauver. Et cela m'a fait penser aux témoins de Jéhovah qui refusent les transfusions sanguines.
Oui. Alors, dans la question, ils refusent les transfusions sanguines. Bon, au nom d'une valeur attachée au sang humain qui se rattache à la tradition hébraïque ancienne. Bien. Alors, dans ce cas-là, au fond, c'est une appréciation négative du sang. Mais, dans un point de vue personnaliste ou de morale naturelle, la possibilité d'apporter du sang à une personne pour sa vie est très importante. Et donc, elle devrait prendre en première place vis-à-vis de préoccupations un petit peu liées à une certaine conception du sang. Alors, on n'est pas dans le cadre du principe de totalité, dans cette question du sang et des témoins de Jéhovah, on est un peu dans le sens inverse, où, dans lequel, au nom d'une valeur attachée, et là je ne vais pas rentrer dans cette question de valeur, attachée au sang, on refuserait au fond l'élément qui permet à la vie, premier principe, source de tous les biens, de durer. Et donc, effectivement, du point de vue personnaliste, la position des témoins de Jéhovah se contesterait. Parce que, au fond, ils refuseraient le premier point, le point originel, la défense de la vie, au nom d'une préoccupation qui est d'un autre ordre, qui est un autre d'ordre philosophique ou d'ordre. Voilà ce que je dirais. Alors, cette position est à respecter. Quand c'est la personne responsable qui le demande, le problème vient au niveau des enfants. Lorsque des parents, témoins de Jéhovah, refusent que l'on donne à leur enfant la fraction de sang qui permettrait de sauver la vie. Alors face à cette position, pour respecter les deux, ce que l'on fait aujourd'hui, on a appris à utiliser les perfusions, les substrats, une certaine dilution du sang qui permet d'un côté d'assurer le maintien de la vie et en même temps de respecter la position spirituelle des témoins de Jéhovah. Cependant, si vraiment, dans le cas présent d'une grosse blessure avec perte de sang très abondante et que l'enfant va mourir, là, le médecin, à un moment donné, doit décider de lui-même de donner du sang et, bien sûr, s'engagera dans un problème après juridique. Mais là, il va d'une question de devoir moral.
Eh bien, merci beaucoup, Père Jacques Ciodo. Nous arrivons au terme de notre émission. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à notre thème d'aujourd'hui ?
Non. Ce que je voudrais ajouter, c'est ce sur quoi j'ai fini, l'importance pour les malades, pour les patients, pour nous tous, de considérer que leur bien propre passe au travers du bien commun. Donc il y a une relation entre la personne malade et la société. La société aide, elle donne toute l'organisation hospitalière, elle donne la médecine, mais en même temps, l'individu ne peut pas un petit peu se retirer sur sa montagne sacrée en disant « moi d'abord hein ». Et la question du bien commun, ça m'intéressera en second plan. Non, nous sommes tous dans la même barque. Et donc, encore une fois, je rappelle ce principe. Nous voyons dans le malade le Seigneur lui-même, et le Seigneur, c'est aussi le Seigneur médecin. Le Seigneur qui, au nom de la société, vient donner son aide à tous. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Père Jacques Sudeau. À très bientôt.
Bonne journée.
Au revoir.